au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'avoir choisi Canal Académie. Dans cette émission, j'ai le grand plaisir d'accueillir Michel Zinc. Mais ai-je le plaisir de l'accueillir en tant que membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, en tant que professeur au Collège de France, en tant que docteur ès-lettres, ce qu'il est incontestablement, ou bien ai-je le plaisir de l'accueillir en tant que lecteur, ou plus exactement en tant qu'adulte se souvenant de ses lectures d'enfance, car c'est de la manière dont les enfants lisent que nous allons parler avec lui aujourd'hui, grâce à son livre, publié en ce début d'année 2009, « Seuls les enfants savent lire » aux éditions Talendier. Michel Zinc, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être venu jusqu'au studio de Canal Académie.
C'est un grand plaisir.
Un vendredi, je le précise, jour de l'Académie des inscriptions.
Voilà, jour de mon Académie.
Parlons d'abord, si vous le voulez bien, du titre que vous avez choisi. Je le trouve un tout petit peu, pas provoquant, le mot serait un peu fort, mais un petit peu à contre-courant, à une époque où on entend dire que les enfants ne savent plus lire, qu'ils entrent en sixième sans maîtriser la lecture.
Ce n'est pas faux,
ce n'est pas faux. L'un n'empêche pas l'autre.
Non, ce n'est pas, je ne me situe pas dans cette perspective.
Voilà, d'abord, ce n'est pas votre propos.
Non. D'abord, c'est un titre qui fait allusion au sous-titre du Petit Prince, « Les enfants savent ». Et là, seuls les enfants savent lire. Et c'est un livre narcissique, d'une certaine façon, puisque c'est une plongée dans les lectures de mon enfance, en essayant de retrouver les impressions que j'éprouvais, enfin les impressions que j'éprouvais, c'est mal dit, les pensées que m'inspirait ce que je lisais, et en confrontant avec les souvenirs, avec les oublis, avec, quand par hasard j'ai relu le livre, ce qu'il m'inspire maintenant. Mais généralement, je n'ai pas relu.
Oui, et vous êtes interdit de relire.
Je me suis interdit
même,
de relire, sauf exception.
Pour que les impressions soient justement
fraîches. Oui, exactement. Mais lorsque je dis « seuls les enfants savent lire », je veux seulement dire que les enfants ont précisément une fraîcheur d'impression, une vivacité d'impression qui fait que tout ce qu'ils lisent, comme tout ce qu'ils vivent d'ailleurs, les marque profondément. Et aussi qu'ils ont une sorte de compréhension intuitive qui fait que quand on est enfant, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas parce qu'on ne peut pas les comprendre, parce qu'on ne sait pas encore suffisamment de choses, etc., qu'on ne comprend pas, mais qu'on comprend tout de même. Et que quelquefois, alors même qu'on ne les comprend pas, on comprend avec plus de finesse qu'on ne les comprendra quand on comprendra. Et cette finesse instinctive dans la compréhension et dans l'adhésion à ce qu'on lit, c'est une qualité essentiel du lecteur, puisque le lecteur doit bien accepter d'être dupe de ce qu'il lit, sinon il n'y prend pas de plaisir, sinon sa lecture est gâchée. Et les enfants sont des dupes merveilleuses, parce que ce sont des dupes pénétrantes.
Voilà donc pour le titre, « Seuls les enfants savent lire ». Maintenant parlons de l'écriture, 120 pages, c'est un ravissant petit livre, mais très joliment illustré par une couverture qui rappelle un peu les cahiers de l'enfance. Alors, il n'y a pas de chapitre dans votre livre. J'ai vu qu'il n'y avait pas de chapitre. Pourquoi ? Parce que vous voulez nous entraîner comme ça au fil de l'eau, dans
voilà,
les souvenirs.
Voilà, c'est cela. C'est peut-être un peu une coquetterie d'écriture, mais la tentation, non, parce que c'était un choix qui en valait un autre, mais la tendance naturelle était de faire une sorte de dictionnaire de ces lectures d'enfance. Et ce n'est pas cela que je voulais faire, parce que le dictionnaire ou le principe du dictionnaire exigeait d'avoir des informations sûres, d'avoir une sorte de tableau chaque fois. Or, le jeu auquel je me livrais était l'inverse. C'était vraiment une plongée, c'était de m'abandonner au fil de la conscience, de voir ce que je retrouvais, ce que j'avais oublié, la façon dont il fallait interpréter ces souvenirs et ces oublis. Et comment les souvenirs s'appelaient les uns les autres. Et ils s'appelaient en effet beaucoup les uns les autres, à tel point que parfois je me suis freiné, je me suis arrêté avec l'impression que j'allais devenir indiscret, en dire trop sur moi-même, passer trop à l'autobiographie.
Et pourtant, effectivement, vous parlez beaucoup de vous-même, mais c'est ce qui rend le livre évidemment intéressant aussi. Votre palette d'écriture avec ce style de livre, justement, elle s'élargit encore. Vous avez écrit des ouvrages savants sur la littérature du Moyen-Âge.
Il faut bien.
Et vous avez aussi écrit des romans. Donc, Canal Académie a fait quelques émissions. Un roman autour du Graal, un roman Un portefeuille toulousain qui est plutôt un peu policier.
Un demi-policier.
Donc là, un nouveau style d'écriture. Voilà. Finalement, vous aimez essayer
Mais c'est-à-dire, j'ai été lâche dans la... parce que j'ai toujours eu envie d'écrire des romans. Mais d'abord, je n'y arrivais pas. Et puis, j'ai fait bêtement une carrière universitaire. J'ai écrit des livres savants. J'ai eu professeur au Collège de France, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Et à ce moment-là, sur mes vieux jours, je me lâche et je me permets ce que je m'étais toujours interdit.
Je ris quand vous dites « vos vieux jours », vous me le permettrez quand ce n'est pas encore tout à fait le cas.
Enfin...
Il existe pour les enfants, enfin, hier comme aujourd'hui, je suppose, deux sortes de livres de lecture. Il y a les livres de classe et il y a les livres qu'on lit à la maison et aussi pendant les vacances. Alors vous commencez vous par parler des livres de classe et vous dites « ils étaient gays ». Ça m'a surprise. Là,
Non, je le dis, enfin... Oui et non, parce que je commence par parler au contraire de livres qui m'ont laissé une impression austère. Je parle des petits textes dans les livres de grammaire, comme la grammaire est quelque chose d'aride, je me précipitais sur les petits textes des exemples qui étaient un début de récit. Et ces textes étaient souvent austères et un peu tristes. Ce qui était gai, mais je le dis en plaisantant, c'était mon livre vraiment d'apprentissage de la lecture qui s'appelait « La méthode en riant ». La lecture en riant, et alors bon, on riait relativement. Hein. Et gai n'est pas le mot que j'emploierais. En revanche, je parle beaucoup de ces livres de lecture suivie qu'on utilisait à l'époque, mais assez tôt, dès le CE1, et ensuite beaucoup, et qui étaient comme des petit roman pour enfants, mais chaque chapitre était suivi d'explications de mots, d'exercices de grammaire, etc. C'était à la fois des livres de classe, des livres d'exercice et des romans. Et dans certains cas, ils étaient écrits par des romanciers connus et avaient une véritable qualité littéraire.
Alors, vous dites, page 25 de votre livre, on découvre, alors c'est de la surprise aussi, que l'éminent professeur que vous êtes devenu était un élève paresseux. Est-ce que cette confidence n'est pas une coquetterie d'académicien ?
Non, c'est...
Vous étiez vraiment paresseux ?
Je n'étais pas vraiment paresseux, en ce sens que je faisais quand même ce qu'il fallait et que j'étais très bon élève. J'étais même trop bon élève, j'étais un petit enfant sage. Mais j'étais paresseux en ce sens que... c'est ce que je dis. Ce n'est pas que le travail m'ennuyait, mais le travail me faisait peur. Parce que le travail me ramenait à l'école où il faudra aller le lendemain. Et j'avais peur de l'école, peur de mal faire, peur d'être grondé, peur de la vie. Et le travail, c'était la vie. Le travail me confrontait au fait qu'il faut bien vivre, qu'on ne peut pas rester dans sa chambre à jouer, à rêver, à lire.
Alors il faut s'y mettre.
Il faut se coller
à la réalité.
Et du coup, m'y mettre était difficile parce que ça me faisait peur. Mais je crois que c'est, enfin, sans nulle vanité, que c'est une réflexion juste, que c'est une expérience de la vie que tout le monde a, que c'est difficile de s'y mettre et que, en fait, on s'y met et on travaille parce que ce serait encore plus pénible de ne rien faire, de s'arrêter. Et qu'on tient dans la vie qui est souvent difficile parce qu'on a la tentation de tout laisser tomber, de tout abandonner, de renoncer, et on s'aperçoit que ce sera encore plus dur que de continuer. Alors on continue, mais on choisit toujours la facilité. C'est ça la paresse fondamentale.
Autre confidence et confession que l'on découvre en plusieurs passages de votre livre « Seuls les enfants savent lire », c'est que vous êtes fasciné par l'eau, par la mer, par les bateaux. Et pourtant, vous avez vécu toute votre enfance, en tout cas l'été, dans le Morvan. Il n'y a pas la mer, je le précise.
Il n'y a pas la mer, j'étais très loin de la mer. Alors peut-être que ça a aidé, n'est-ce pas ? Parce que tout ce que j'avais sous la main, si je puis dire, c'était un lac. Vous savez, ces lacs du Morvan qui ne sont pas gigantesques. Et du coup, j'essayais de vivre mes lectures ou de trouver un écho de mes lectures sur ce lac, tout en rêvant aux immensités marines. Et finalement, ça... excitait d'une certaine façon mon imagination et mon désir. J'en
Alors,
ai encore
quel
mieux
livre,
profité.
Par exemple, quel
Alors,
livre
il y avait, il y a un roman qui était justement un livre de lecture suivi, mais que j'ai pas utilisé en classe. J'avais hérité de mes grandes sœurs, qui s'appelait Le Voyage d'Edgar d'Édouard Pesson, qui est un romancier de la mer, qui est un grand romancier, enfin que j'admire et que j'aime beaucoup. Tout le monde connaît Parti de Liverpool à partir du naufrage du Titanic, etc. Et Le Voyage d'Edgar était un livre extrêmement bien fait, extrêmement émouvant, extrêmement vivant, extrêmement passionnant pour un enfant, très, très émouvant. Et que j'ai lu et relu toute mon enfance avec une grande passion. Et à côté de cela, il y avait, alors là c'était une navigation d'eau douce, mais impressionnante, il y avait Les Aventures de Huck Finn, de Mark Twain. Je n'avais pas lu Tom Sawyer, qui est vraiment un roman pour enfants, charmant, très très bien, mais qui est moins bien. J'ai eu la chance de lire directement Huck Finn, qui est un des plus grands romans qui ait jamais été écrit, qui pose des problèmes, des questions vraiment fondamentales, et qui montre la fuite, en somme, de cet enfant de la nature qui est Huck Finn, qu'on a essayé de civiliser, avec un esclave noir dont il favorise la fuite. Ça se passe donc dans le sud des États-Unis avant la guerre de sécession. Et il y a un grand thème dans ce roman, ça c'est vraiment quelque chose que je n'aurais pas pu formuler comme ça. En un sens, je ne comprenais pas et en même temps, je comprenais très bien. C'est que Huck Finn, dont on essaye de faire l'éducation, trouve que c'est mal d'aider un esclave à s'enfuir. C'est comme du vol. Et en même temps, il le fait. Il agit contre la loi qu'on lui a imposée, d'une certaine façon, contre sa conscience et en suivant sa conscience.
Pour notre valeur.
Oui, et il fait le bien, et il prend des risques énormes, en se le reprochant. Et il y a une sorte d'ironie très forte du roman qui est là et qui le rend extrêmement remarquable. Mais alors, il s'enfuit d'abord sur un canot, et puis ensuite, il s'empare sur le Mississippi en crue d'un radeau avec un petit wigwam derrière. Il leur a fait des tas de choses. Alors, quand j'étais sur la petite barque familiale sur ce lac, je m'imaginais être Huck Finn, et je m'étais fabriqué même un radeau avec des bidons d'huile que je quémandais dans les garages, parce que c'était pas très écologique, mais à l'époque on n'avait pas ce souci, n'est-ce pas, pour reconstituer le radeau de Huck Finn.
Alors, votre idée que vous développez dans ce livre, c'est que justement, l'enfant que vous étiez, l'enfant lecteur, s'il ne perçoit pas toutes les lois, les permis et les interdits, sauver un esclave, le voler à son maître, etc., il percevait tout de même la conscience de aider un être humain à être libre. Enfin, vous le formuliez pas, mais vous le compreniez.
Ah, si, ça, je comprenais très bien. Et je comprenais aussi que la toute petite éducation qu'a reçue Huck Finn, finalement, est plutôt un handicap. Et que quand il a le sentiment d'une supériorité par rapport au noir, Jim, c'est dans des circonstances où, en fait, Jim lui est supérieur. Lui est supérieur même intellectuellement parce qu'il raisonne de façon simple mais juste, parce qu'il flaire vite les escrocs alors que Huck est dupe de leur bavardage et de leur boniment, justement parce que le boniment fait appel aux quelques petites choses qu'il peut savoir. Et donc, la générosité et le bon sens sont du côté de la nature, pas du côté de la culture. Et c'est montré avec finesse, mais ça, je le comprenais très très bien. Lorsque Huck dit « on ne peut pas apprendre un nègre à raisonner », et justement au moment où Jim raisonne beaucoup mieux que lui. Et ça, bon, à 10 ans, je le voyais parfaitement.
Alors vous exprimez cela, page 44 de votre livre, et vous me permettrez de le lire. Au fond, j'avais beau ne rien comprendre, je comprenais tout. C'est ainsi que les enfants lisent. Ils comprennent sans savoir qu'ils comprennent. Ils ont raison. Le lecteur doit accepter d'être dupe de ce qu'il lit et non jouer au plus malin. La pire lecture est celle des professeurs et des critiques. Et pourtant, vous êtes professeur et critique
bien,
aussi.
Eh bien oui, je suis professeur et critique, mais avec comme ça un goût, le goût d'être écrivain rentré ou raté. Et tout de même, je rends cette justice au professeur justement immédiatement après à propos de Huck Finn, où je ne connaissais pas assez bien la géographie des États-Unis pour comprendre une autre ironie du roman, qui est qu'en descendant le cours du Mississippi, ils se jettent dans la gueule du loup.
Ils vont dans
les États sudistes. Et ça, s'il y avait eu une note, j'aurais compris. Donc, cette petite coquetterie, c'est effectivement une coquetterie, mais pas vraiment, et pas seulement. Ou, en tout cas, les professeurs devraient toujours penser au fait que le fin du fin, ce n'est pas d'avoir leur science, mais c'est d'avoir cette science, de l'avoir oubliée et d'être à nouveau dupe. Et je ne sais plus qui dit la bonne lecture, c'est l'oubli du savoir et le retour à l'ignorance, mais je le dis très très mal, alors que c'est une formule magnifique qui m'échappe.
Avec Michel Zinc, nous évoquons son livre « Seuls les enfants savent lire » paru aux éditions Talendier. Je vous propose qu'on marque une courte pause et qu'on se retrouve dans un bref instant.
La bibliophilie est à l'honneur sur Canal Académie. En compagnie de notre bibliologue Bertrand Gallimard-Flavigny, vous découvrirez des ouvrages et manuscrits rares présentés avec esprit dans l'émission « Au fil des pages ». Le bibliologue, une rubrique de Canal Académie, à écouter et télécharger sur canalacademy.com.
Nous retrouvons Michel Zinc dans notre studio avec l'envie de partager avec lui sa manière de lire comme les enfants. Seuls les enfants savent lire, c'est le titre de son livre paru aux éditions Talendier. Alors Michel Zinc, bien sûr, vous évoquez plusieurs grands livres et grands auteurs et des livres que nous avons tous lus. Alors, par exemple, Les signes de piste, le fameux Prince Eric. Alors,
voilà.
Vous avez plusieurs pages pour expliquer comment vous le lisiez, ce que vous perceviez et ce que vous ne perceviez pas à l'époque.
Oui, alors, donc la série, le bracelet vermeil, la tache de vin, le Prince Eric, la mort d'Eric, naturellement, je dévorais ça avec passion, comme tout le monde,
comme tous les garçons,
comme tous les enfants. Et en même temps, il y avait quelque chose qui me gênait un petit peu, et j'avais raison en fait d'être gêné, c'est que d'une part, j'avais tout de même suffisamment de notions de ce qui s'était passé pendant la guerre. Moi, je suis né en 45, donc après ou juste à la fin, pour trouver que c'était tout de même un petit peu fort de café, si j'ose m'exprimer ainsi, de dire « Ah, ces garçons charmants, non, ce ne sont pas des scouts, c'est des jeunesses hitlériennes, mais comme ils sont gentils, comme ils nagent bien. » Je trouvais que c'était en faire un petit peu beaucoup. Et puis, Eric, comme on sait, donc revient de sa principauté scandinave, s'engage comme aspirant dans l'armée française et est tué au moment de la débâcle de juin 40. Bon, j'étais évidemment effondré que le héros soit tué et que ça se termine mal. Mais en plus, cela me gênait que ça se termine mal pour la France, en somme, et que l'auteur ne mentionne pas du tout la possibilité d'un rebond, d'un nouveau départ, d'une perte d'une bataille et non de la guerre. Mais moi, j'avais été élevé après la guerre et dans le culte du général de Gaulle. Le roman a été écrit en 1943, on ne pouvait pas savoir comment ça se terminerait.
Voilà, l'auteur ne connaissait pas la fin de la guerre.
Il ne connaissait pas la fin de l'histoire. Mais tout de même, il y a une sorte de complaisance à accepter cette sorte d'ordre nouveau qui s'instaure à ce moment-là, qui, je crois, existe réellement. Et alors, je lisais aussi un autre roman scout qui s'appelait « Le château du mystère » que personne n'a lu, qui, lui, a été publié en 1946 ou 1947.
Et qui lui évoque justement...
Oui, et alors, je le lisais, je ne me rendais même pas compte que ce n'était pas de Serge Dalin, c'est que ce n'était pas chez le même éditeur. Mais en réalité, c'était un roman qui prenait le contre-pied de la série du Prince Eric, et qui montrait un roman scout, mais un chef de troupe issu de la Résistance, qui a reçu la Légion d'honneur dans la Résistance, Et donc, ce roman montre que j'avais raison d'être un peu mis mal à l'aise par les quatre autres, puisqu'on avait éprouvé le besoin d'écrire la même chose, mais dans un esprit différent, tout de suite après la Libération.
Alors, vous écrivez justement sur ce plaisir de lire. Le premier plaisir de lire, celui de l'aventure palpitante dont on ne se tient pas d'impatience de découvrir la suite et le fin mot, mais à l'époque où je m'y plongeais, je savais déjà qu'un livre peut procurer un autre plaisir qui ne tient ni à l'entassement des épisodes ni à leur rebondissement, un plaisir dont je comprenais qu'il devait être tenu pour préférable et qu'il l'était en effet un plaisir supérieur. Alors quel est ce plaisir supérieur de lecture qu'on éprouve quand on est enfant?
Oui, alors c'est que même enfant, on peut être sensible à des beautés qui sont vraiment des beautés du style, de la poésie du récit. Même dans certains cas, des descriptions, on dit « les enfants sont les descriptions », pas forcément. Il y a des moments où l'on sent que l'atmosphère de ce qu'on lit tient à la description et on sent bien que cette sorte de hâte boulimique à savoir ce qui se passe, c'est quelque chose, bon, c'est une passion, mais qu'il y a un plaisir plus subtil, plus durable, qui tient à une atmosphère, et l'atmosphère tient à une écriture. Et ça, un enfant ne peut pas le dire en ces termes, mais il le sent fortement.
Vous parlez aussi un petit peu plus en détail, bien sûr, de l'inévitable comtesse de Ségur, mais ce n'était pas là sur elle que j'avais envie de vous interroger, plutôt sur les contes qui ont l'air d'avoir tenu une grande place dans votre vie, non seulement ceux de Perrault, bien sûr, mais ceux d'Henri Pourrat.
Henri Pourrat a joué un très grand rôle dans ma vie et le joue encore. Je suis un pourratologue officiel, presque. je dois dire sans nulle vanité, un peu grâce à moi, que le cinquantenaire de la mort d'Henri Pourrat, cette année en 2009, figure parmi les célébrations nationales. Je participe largement à tous les événements Pourrat qu'il va y avoir. Alors, d'une façon générale, les contes de fées, ont ravi mon enfance, ont joué un très grand rôle pour moi et je les ai lus. J'en ai lu au premier degré, jusqu'à un âge que je n'oserais pas avouer, n'est-ce pas ? Mais Henri Pourrat, c'était à la fois des contes, donc l'auteur du Trésor des contes, qui a passé sa vie à rassembler des contes populaires, à les réécrire dans son style à lui, c'était à la fois des contes merveilleux, aussi bien que des contes facétieux d'ailleurs, mais des contes enracinés dans la vie rurale de la fin du 19e siècle, du début du 20e siècle, de l'époque où il les a collectés. Et cette vie, alors pour le coup, je reconnaissais là la vie de mes vacances dans ce petit village du Morvan, surtout que là, le pays c'est l'Auvergne, le pays de Pourrat, c'était pas très très différent. Et voilà un cas où ce qui faisait que ces contes me ravissaient plus que d'autres, ce n'était pas leur contenu. Parce que les contes de fées, c'était les mêmes, les contes de fées sont toujours les mêmes. Et même les contes facétieux étaient des contes facétieux. Mais c'était l'écriture de Pourrat, cette reconstitution.
L'atmosphère.
Cette atmosphère de vie rurale, même dans les contes de fées, ce style qui n'est pas un vrai style oral, mais qui est la reconstitution écrite d'un style oral d'une façon extraordinairement habile et extraordinairement prenante. C'est justement ces descriptions ébauchées, un paysage, le bleu des collines dans le lointain, le dos rond des roches de granit dans une prairie pauvre, les arbres couchés par le vent, tout ça. Et même à 8 ans, ça faisait pour moi partie de ces contes. Mais vraiment, Pourrat, aussi bien le Trésor des contes et ce roman extraordinaire qu'est Gaspard des Montagnes, vraiment, tout le monde ne connaît pas Henri Pourrat, mais je peux dire que toutes les personnes à qui j'ai fait lire Henri Pourrat...
On s'en remet pas.
Ah oui, ne s'en sont pas.
Michel Zinc, je l'ai dit tout à l'heure au début de l'émission, vous êtes professeur au Collège de France, vous tenez la chaire de littérature médiévale.
De la France médiévale, et si je peux ajouter un mot, je suis médiéviste en grande partie
à cause
de cet amour des contes.
Voilà, est-ce que ce sont les contes et la poésie que vous avez découvert aussi étant enfants qui vous ont finalement plus ou moins guidé vers le Moyen-Âge?
Oui, j'ai eu l'impression à la fois une impression un peu romantique, pas entièrement vraie, mais pas non plus totalement fausse, qu'en allant au Moyen-Âge, je remontais le fil du temps en allant à la source des contes. Alors, ce n'est pas vraiment la source des contes, mais qu'il y ait des échos et une continuité entre les récits médiévaux, les romans d'aventure et d'amour, et cet aspect conte de fées, effectivement, de la littérature du Moyen-Âge, et les contes, c'est indubitable. Et puis, j'étais, alors au moment un peu plus tard, au moment de l'adolescence, l'amour courtois, les troubadours, ça, je trouvais ça si beau. Et je faisais entrer cela en résonance avec la poésie, y compris la poésie la plus contemporaine, que je lisais. Et puis moi-même, j'écrivais des poèmes, naturellement.
Alors, le premier poème, à quel âge? On veut tout savoir.
Ah oui, alors le premier poème, j'avais 5 ans, quelque chose comme ça.
Vous écrivez des poèmes à 5 ans?
Entre 5 et 6 ans.
Vous aviez compris la rime et la résonance?
Oui, c'était un vrai... C'était un 4 ans, enfin bon. Mais alors là, c'est ma honte, parce que j'étais vraiment un singe savant. Ma grande sœur, qui était vraiment très pédagogue, elle me lisait des bouts de l'Odyssée, puis elle me racontait de la mythologie grecque, puis elle me lisait des bouts de Racine, elle m'avait lu son fils, Venise à cette nuit cruelle qui fut pourtant un peuple, une nuit éternelle, etc. Et alors, j'avais pastiché tout ça dans mon quatrain, ça commençait par « Rappelle-toi l'Atride », je trouvais qu'il fallait que ce soit culturel, n'est-ce pas ? Et il y avait, je ne sais même plus si ça rimait très... Mais enfin, il y avait du rime, non, c'était un poème, c'était indubitablement un poème.
Ah, oui, oui, vous aviez bien compris déjà, j'avais compris, enfant.
Oui, j'avais compris enfant, mais enfin, j'en suis pas particulièrement fier parce que ça fait vraiment, d'abord, ça fait petit héritier culturel, ça fait, oui, ça fait singe savant. Mais au moment, à l'adolescence, quand j'écrivais des poèmes, et à ce moment-là, je ne doutais pas que ma vocation m'appelait à devenir poète et écrivain, et où, bah, tout de même, bon, fait quatre, j'entrais à l'école normale supérieure, il fallait vivre, bon, et je me suis dit, je vais être médiéviste, et je me suis dit, je vais être médiéviste par goût des contes de fées, par goût des troubadours, et aussi en me disant, je vais créer une distance entre cette littérature et cette poésie d'aujourd'hui que je veux pratiquer et celle que je vais étudier parce que ce sera plus enrichissant de faire cette sorte de va-et-vient. Alors, je ne l'ai pas fait parce que je suis qu'un écrivain, pas un vrai écrivain, mais enfin, le raisonnement n'était pas stupide tout de même. Si j'avais été plus doué, ça aurait été pas mal.
Et pourtant, la poésie, alors après, quand vous étiez plus adolescent, vous avez, dites-vous, adoré Nerval et Patrice de la Tour du Pin.
Ah, oui.
Et pourtant, vous dites, la poésie, elle m'a fait sortir de l'enfance. C'est-à-dire, elle vous a tiré de cet état d'émerveillement et de sensibilité exacerbée qui permet de percevoir
alors,
pour plus de raisonnement, pour
bah,
plus...
Pas vraiment,
pas, vraiment, quand
pas
même.
Vraiment, mais une sensibilité différente et qui est le grand moment de la poésie chez tout le monde, c'est l'adolescence.
Vous dites, l'adolescence est stupide, c'est écrit dans
oui,
votre
oui,
livre.
Oui, c'est, hein, c'est Anatole France qui le dit et je...
Bon,
je
alors
l'assume.
On lui rend,
et je,
on la, lui
et
rend
je l'assume. Et l'adolescente, c'est stupide. La puberté, je le dis, je maintiens un âge extrêmement sombre. Et tout cela est lié à la poésie et contribue au goût de la poésie, mais d'une façon à la fois violente et un peu désenchantée par rapport à l'enfance, qui fait que ce n'est plus ça. Et je suis tellement régressif que voilà, je me reporte à l'âge vraiment enfantin.
Merci Michel Zinc de nous avoir fait partager l'amour de la lecture que vous avez éprouvé étant enfant et que vous analysez avec beaucoup de recul, mais en même temps pas d'une manière trop savante. Justement, il y reste une fraîcheur dans ce livre que je ne saurais trop que conseiller à nos auditeurs. « Seuls les enfants savent lire » de Michel Zinc, paru aux éditions Talendier. Merci et j'espère
merci à
une autre fois pour un autre livre.